dans la vie, il n'y a pas de problème avec les fatalités.
Avec un peu de retard, nous allons parler mobilité désormais. Jean-Jacques Bernard est au téléphone avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes 4e vice-président de Rennes Métropole en charge des transports et des déplacements, président de la commission mobilité et transports et conseiller municipal de Thorigné-Fouillard. La métropole de Rennes a lancé une démarche de concertation auprès des habitants et acteurs du territoire pour réfléchir et construire les modes de déplacement de demain, dont vous êtes en charge. Quelle est l'origine de cette volonté d'organiser des concertations, non pas entre élus seulement, mais avec des habitants ?
L'origine, tout simplement, c'est parce que la mobilité, c'est totalement transversal, c'est une politique qui impacte l'ensemble des politiques, mais surtout l'ensemble de ce qui constitue la vie quotidienne des habitants. Je me référerai simplement, pour résumer ce point-là, à l'une des expressions lors de la réunion de lancement de cette concertation qui s'est tenue à Rennes ou à Le Marteneau le 20 avril dernier. Une des personnes interviewées disait « La mobilité, c'est l'essence de ma vie parce que c'est ce qui rythme ma vie professionnelle, mes loisirs, mes sorties, mes relations personnelles, familiales. » Donc voilà, on ne peut pas ne pas associer les habitants, donc la proximité, c'est essentiel pour définir les besoins à l'horizon de plus d'une décennie, s'agissant des besoins en matière de mobilité des habitants.
Et à travers justement ces visions personnelles des habitants, vous attendez un regard nouveau et particulier sur les stratégies à envisager quant à la mobilité ?
Oui, bien évidemment, parce que l'actuel plan de déplacement urbain, il date aujourd'hui de 2007. Ça veut dire que la période identique à celle que l'on vit aujourd'hui, elle s'est tenue maintenant il y a pratiquement 12-15 ans. Il y a des tas d'éléments nouveaux qui sont venus depuis cette période-là, qu'il s'agisse déjà du territoire lui-même. Le territoire s'est agrandi, la métropole donc a accueilli de nouvelles communes, notamment au nord-ouest. Les compétences se sont enrichies aussi dans le cadre de la loi dite MAPTAM, avec notamment des compétences essentielles pour les déplacements, s'agissant des compétences en matière de voirie, donc de routes départementales, mais aussi des routes communales qui sont maintenant sous compétences métropolitaines. Puis surtout, dans nos modes de vie au quotidien, il y a des tas de sujets nouveaux. Le covoiturage, on n'en parlait absolument pas il y a 12-15 ans. L'apport du numérique, du portable, dans tout ce qui service, c'est essentiel. Donc il faut prendre en compte toutes ces nouvelles habitudes, tous ces nouveaux modes de vie qu'ont intégré les usagers.
Vous en parliez tout de suite, il y avait eu un précédent plan de déplacement urbain de 2007 à 2017. Est-ce que justement ce plan avait été élaboré grâce à des concertations avec les habitants ?
Alors sans doute avec une approche moins volontariste, moins originale que celle que l'on propose aujourd'hui, puisqu'on propose notamment de se caler aussi sur le nouveau fonctionnement de notre agglomération, qui, de par l'extension de compétences de proximité, parce que la voirie, c'est une compétence de proximité, mais le déplacement aussi, s'est organisé en secteur. Eh bien, nous avons souhaité que dans le cadre de cette concertation publique, nous allions sur le terrain d'abord, au plus près des habitants, avec l'agence Grand Public qui nous accompagne dans les lieux de vie, les marchés, les établissements scolaires, mais aussi dans le cadre de réunions plus formelles, mais avec cette volonté de d'essaimer sur le territoire, et notamment ces secteurs, ils n'existaient pas au moment de l'élaboration du PLU précédent. Donc c'est une approche nouvelle en ce sens-là, qu'on va vraiment sur le terrain pour entendre les habitants sur leurs aspirations en matière de déplacement.
Pendant ces concertations, durant les rencontres qui seront un peu plus formelles dont vous parliez, les débats seront introduits par un film enquête réalisé auprès de 109 habitants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce film enquête ?
Alors ce film enquête, il est vraiment intéressant pour lancer le débat, parce que nous avons été vraiment impressionnés, je dirais, par la richesse des expressions pendant ce film. Il y a vraiment une très bonne appréhension des enjeux, et ce qui nous rassure, c'est qu'on démarre cette phase de concertation grand public après une phase politique avec des élus, après une phase technique avec le milieu associatif, les chambres de commerce, etc. Et je dirais que sur les enjeux, il y a vraiment une vraie connivence entre le grand public et les élus, et c'est rassurant. Et il y a surtout l'expression d'attachement au modèle urbain, parce que la mobilité, c'est évidemment pas détaché de l'aménagement urbain, c'est totalement lié. Et il y a un attachement à cette ville-archipel, à cette métropole-archipel, à cette alternance de ville et de campagne. Et on doit évidemment en tenir compte parce que c'est porteur d'atouts extraordinaires en matière de qualité de vie, la ville-archipel, la présence de la campagne à proximité de la ville. Mais c'est aussi un modèle qui est source de grande complexité en matière d'offres de mobilité, de transport en commun. Et donc ces expressions-là sont fort intéressantes. Parce qu'elles sont aussi, elles expriment aussi, et c'est naturel, une affirmation légitime à une exigence de qualité, de service, de déplacement, la mobilité pour tous, quel que soit le lieu où on réside, quelles que soient ces problématiques de santé, d'âge, ces problématiques financières. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette démarche, c'est de faire en sorte que l'on concilie les atouts de notre agglomération et puis cette complexité qui est celle du modèle archipel.
En termes de statistiques, à Rennes Métropole, la part des transports en commun pour les déplacements domicile-travail a augmenté de 14% en 15 ans. Est-ce que dans ce plan de déplacement, il y aura un objectif prédominant de développement de l'utilisation des transports en commun ?
Alors, bien sûr, mais je crois que surtout, ce qui différencie le futur plan de déplacement urbain en cours de programmation et l'actuel, c'est qu'on va aborder les mobilités de manière beaucoup plus large et transversale. On avait essentiellement un plan de déplacement urbain centré sur les transports en commun. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le transport en commun, c'est un élément essentiel dans une ville en plus où le réseau est très structuré, où on aura bientôt deux lignes de métro en complément de la première, la ligne B sera donc disponible en 2020. Mais surtout, il faut que pour développer la part modale des transports en commun, faire en sorte aussi qu'on ne laisse pas de côté toutes les mobilités alternatives, les mobilités actives. On voit aujourd'hui avec l'arrivée, mais c'est pareil, ça n'existait pas il y a 15 ans, hein, on ne pouvait pas en parler dans le PDE précédent, du vélo assistance électrique qui révolutionne l'usage du vélo. On peut aujourd'hui placer le vélo comme un objectif de déplacement, y compris domicile-travail, avec des distances qui sont beaucoup plus longues que celles qu'on pouvait parcourir avec un vélo classique. Donc oui, il y a un objectif de développement du transport en commun et de la part modale, mais il faut aussi s'atteler à faire en sorte que tous les autres modes portent un enjeu essentiel, c'est la réduction de l'usage de la voiture solo. C'est pas d'opposer la voiture au reste des modes de déplacement, mais c'est surtout de faire en sorte qu'on modifie son usage, parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup trop utilisée en solo, alors que, par exemple, le covoiturage avec l'apport du numérique peut évidemment booster ce mode qui, finalement, dans certaines zones géographiques, est aussi une source de déplacement de transport en commun, parce que quand on est plusieurs dans une voiture, c'est aussi un transport en commun.
À travers cette pluralité des mobilités dont vous parliez, justement, est-ce qu'il y a une volonté générale dans le plan des déplacements de la métropole rennaise de s'inscrire dans une politique écologique ?
Oui, bien sûr, parce que l'enjeu que l'on porte aussi avec ce plan de déplacement urbain, c'est un enjeu environnemental, c'est la déclinaison de la loi donc de transition énergétique, et c'est un enjeu en matière de santé publique. On sait bien aujourd'hui qu'il n'y a pas une métropole en France qui échappe à cette problématique des pics de pollution, et on sait que les pics de pollution, c'est aussi généré, pas seulement, mais par le trafic routier. Et donc, il faut évidemment, là aussi, faire en sorte que la part de la voiture se réduise, même si aussi il y a des objectifs de faire en sorte de faire évoluer le parc automobile pour faire en sorte qu'il soit plus propre, avec notamment donc la transformation du parc à la fois transport en commun, puisque nous sommes la première agglomération française qui ne commandons plus un seul bus diesel pour se tourner vers une transition énergétique, notamment au profit pour les bus urbains de l'électrique. On sait que le parc privé aussi évolue faire de la voiture électrique pour notamment les usages les plus urbains, de proximité, mais ça sera une œuvre de longue haleine. Il faut absolument que la part de la voiture solo diminue, et c'est un enjeu de santé publique, bien évidemment.
Ce plan des déplacements urbains est en pleine élaboration, mais est-ce qu'il y a des certitudes quant aux modifications qu'on peut attendre à l'avenir quant aux déplacements pour Rennes Métropole ?
Alors, des certitudes, oui, parce que je crois qu'il y a trois volets qui sont essentiels. D'abord, prendre en compte, et c'est très bien exprimé par les habitants, pas un ne nous dit aujourd'hui le transport en commun, les bus, le métro vont régler toutes les demandes en matière de déplacement. Parce que les territoires sont très différenciés, on a des territoires qui sont éloignés, qui sont moins denses que d'autres. Donc il faut absolument que l'on agisse sur trois volets. le volet infrastructure, c'est ce que l'on fait avec la deuxième ligne de métro, la restructuration des services de bus qui va donc aller avec cette arrivée de la ligne B, c'est-à-dire des lignes rabattues vers les stations de métro, mais aussi des services supplémentaires pour les habitants des communes périphériques. On va réinjecter une offre importante sur les communes périphériques. On va élargir les horaires de fin de soirée, par exemple, dans les villes de plus de 5 000 habitants. Donc, et des services supplémentaires, infrastructures, c'est nécessaire, les services. Les services, c'est bien sûr la ligne de métro nouvelle et les services de bus qui vont être améliorés, mais aussi les services pour toutes les autres mobilités. Je pense notamment au covoiturage avec la mise en service dès cette année en 2018, donc depuis le 1er janvier, mais qui va être vraiment en vitesse de croisière à la rentrée, d'une application de covoiturage proximité dynamique gratuite à la fois pour la personne transportée et bien sûr pour la personne qui offre ces services. La maison du vélo qui rassemble tous les services de vélo, l'innovation avec la possibilité de tester pendant une durée longue jusqu'à 2 ans le vélo assistance électrique. Donc on a déjà ces certitudes, c'est-à-dire qu'il faut à la fois des infrastructures, des services, également une animation, un accompagnement au changement, que ce soit vers le covoiturage, que ce soit vers l'usage du vélo électrique ou du vélo classique. Donc c'est toutes ces actions qui doivent être mises en œuvre. Et là, on a des certitudes parce que à travers la nouvelle délégation de services publics, la maison du vélo, c'est déjà une réalité, le vélo assistance électrique, c'est une réalité, la construction de nouvelles infrastructures au bénéfice du vélo, plus de 60 km de pistes vélo dédiées, notamment pour prendre en compte les nouveaux usages du vélo électrique. Tout ça, ce sont déjà des choses qui sont engagées et qu'il va falloir évidemment conforter et prendre en compte évidemment les aspirations des habitants sur des thématiques qui aujourd'hui seraient insuffisamment traitées ou pas encore traitées.
Merci beaucoup Jean-Jacques Bernard pour ces réponses.
Je vous en prie.
Pour suivre ces temps d'échange, rendez-vous entre autres le 12 juin à 19h à Pompéan, le 14 juin à Béton ou encore le 19 juin à Cesson-Sévigné.